Et voici la revue de presse internationale à 7h42 sur France Culture. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Et ce matin, retour au Yémen.
Et c'est vrai que nous avions laissé de côté depuis quelques semaines ce conflit au Yémen qui vient pourtant de marquer les 6 ans de son déclenchement. Alors c'est vrai qu'on en était resté sur une note apparemment positive avec l'annonce par l'Arabie Saoudite au début du mois d'un cessez-le-feu, un arrêt des hostilités contre les rebelles chiites houthis, le temps de laisser passer la pandémie de Covid-19. Mais voici donc le Yémen qui se rappelle à nous, et pas forcément cette fois pour une bonne nouvelle. Dans la nuit de samedi à dimanche, rappelle et rapporte l'agence turque Anadolu, l'un des deux composants de la coalition anti-Houthi, le STC, soit le Conseil de Transition du Sud, a fait sécession. Il a déclaré unilatéralement l'indépendance donc de la partie sud du Yémen, celle qui était jusque-là contrôlée depuis la ville portuaire d'Aden par l'Alliance Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis.
Et cette déclaration d'indépendance du STC, elle met en lumière les dissensions entre ces deux moteurs de la coalition au Yémen.
Oui, c'est la grille d'analyse retenue, pour faire simple, par Lise Doucet de BBC World. Les Émiratis financent et arment le STC, quand l'Arabie Saoudite, elle, est derrière le gouvernement officiel reconnu du président Mansour Hadi, qui est en exil d'ailleurs à Riyad. Les tiraillements dans ce que l'on croyait trop facilement être un front uni contre les Houthis ont donc dégénéré en fin de semaine dernière, détaille Anadolu, autour du contrôle militaire de l'île de Socotra au débouché du golfe d'Aden, puis les rebelles séparatistes du STC ont ensuite affirmé leur contrôle sur le port, l'aéroport et les bâtiments publics d'Aden. Aujourd'hui, au lendemain de leur déclaration d'indépendance, ils ne contrôlent qu'une petite partie du territoire autour de la ville d'Aden et de Socotra. Ailleurs, dans le sud du Yémen, les autorités locales ont dit ce dimanche très clairement qu'elles ne reconnaissent pas la proclamation d'indépendance du STC. Sur Al Jazeera, le gouvernement officiel et donc soutenu par l'Arabie Saoudite crie, lui, au coup d'État catastrophique et dangereux.
Alors reste à savoir, Camille, s'il y aura affrontements physiques territoriaux entre ces deux puissances étrangères dans le sud du Yémen.
Et on devrait le savoir vite, hein, poursuit Al Jazeera. Il va falloir surveiller de très près la situation dans les prochains jours. Mais il faut aussi reconnaître que, bien avant que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et même l'Iran ne viennent mettre leur nez dans leurs affaires, les Yéménites étaient déjà profondément divisés entre le Nord et le Sud, qu'ils ne forment un même et unique pays que depuis 1990. Le risque donc, avec l'éclatement au grand jour des divisions au sein même du camp du Sud ce week-end, c'est le risque d'une nouvelle partition à terme du Yémen en deux entités nationales, voire plus. Mais l'avenir du Yémen et de ses populations, finalement, ni les Saoudiens ni les Émiratis ne semblent y prêter beaucoup d'importance, à lire cette éclairante analyse signée Arama Siddika dans l'Express Tribune du Pakistan. Depuis le début, même si nous n'avons pas toujours su le voir, la guerre du Yémen se joue sur deux fronts, nous dit-elle, entre le nord et le sud, et à gros traits entre sunnites et chiites. Mais surtout, cette guerre, elle se joue au sein même du camp du Sud entre Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, qui se livrent là une bataille à distance, une bataille de souveraineté régionale, dans un contexte où Riyad et son leader, le prince héritier Ben Salman, sont fragilisés en ce moment par l'épidémie de Covid-19, le ralentissement de l'économie américaine et surtout l'effondrement du marché pétrolier. Les Émirats, via leur pion du STC, ont beau jeu de tenter un coup sur l'échiquier yéménite. Qui plus est, à un moment où les Saoudiens cherchent, sans l'avouer, mais de plus en plus clairement ces derniers mois, à se tirer discrètement du bourbier qui est devenu pour eux cette guerre au Yémen. Et pendant ce temps, au nord, dans les territoires tenus par les Houthis, que se passe-t-il, me direz-vous? Eh bien, à Sanaa, la capitale, on goûte un calme paradoxal, mais bienvenu, alors que le mois du Ramadan vient de débuter. Sanaa, à lire le reportage qui a réalisé The Middle East Eye, est même devenue depuis vendredi l'une des rares villes au monde, en tout cas dans le monde arabe, où l'on peut célébrer le mois saint de l'islam sans véritable restriction liée à la peur de la Covid-19. Les marchés sont bondés, les mosquées sont ouvertes et les visites entre famille, amis et voisins sont autorisées. On célèbre la rupture du jeûne dans la rue ou à la maison avec les siens, une sorte de parenthèse enchantée pour un Yémen Nord qui n'a officiellement compté qu'un seul cas de contamination au coronavirus, qui bénéficie, on l'a dit, de la trêve fragile décrétée début avril par les Saoudiens et qui ne boude pas aussi son plaisir de voir les voisins du sud centre déchiré, avec cette idée diffuse que tant qu'ils se battent entre eux à Aden, au moins à Sanaa, on peut dormir tranquille.
Et puis on va en Italie, Camille, avec cette fois le coup de colère du clergé catholique.
Ah, ils sont fâchés, hein, les évêques italiens, Guillaume, car hier soir, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a présenté l'agenda du déconfinement progressif en Italie et ces évêques n'y ont pas lu la date de réouverture de leurs églises. Autant, détaille Il Sole, les chantiers, les usines textiles et automobiles vont reprendre le travail et l'on pourra se rendre chez ses proches à partir de lundi prochain, 4 mai. Autant les magasins italiens rouvriront les 18 mai, autant les cafés et restaurants pourront à nouveau accueillir des clients le 1er juin, autant les enfants, eux, ne retourneront pas à l'école avant septembre. Autant, c'est vrai, aucune date n'a été fixée pour la reprise des offices religieux. D'autant plus paradoxal, note Il Corriere della Sera, qu'à partir de lundi prochain, on va rouvrir les équipements sportifs, par exemple, ou encore autoriser les cérémonies funéraires dans les cimetières et les églises. Alors pourquoi ne pas accorder aux mêmes églises le droit de célébrer des messes, tant qu'elles respectent les règles qui resteront bien sûr en vigueur de distanciation sociale et de port hautement recommandé du masque ? Pour le Conseil des évêques d'Italie, il s'agit là d'une violation criante de la liberté des cultes. Pour l'édito de l'Avvenire, c'est une blessure incompréhensible et justifiable, une rupture de confiance avec les décisions prises par les politiques sur recommandation des scientifiques. L'Église se sent-elle oubliée, négligée, alors que se met en place le monde d'après, en tout cas comme le dit Giuseppe Conte, ce monde où il va falloir apprendre à vivre durablement avec le coronavirus. En tout cas, à force de ruer dans les brancards par voie de presse, l'Église catholique italienne a réussi à se faire entendre par le chef du gouvernement, lequel dans Il Sole 24 Ore déclare qu'il prend note de ces récriminations catholiques et va annoncer dans les prochains jours quand pourront reprendre les messes.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est 7h49.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.